Bonjour à toutes et à tous. Daniel souligne deux choses avant un début de culte. Il avait peur de plomber l'ambiance. Alors, j'ai dit, c'est pas joli en apporté. J'ai dit, t'inquiète pas, je vais continuer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est vrai que des fois, nous abordons des sujets qui sont difficiles. Et puis, la deuxième chose, ça concerne, dans le fond, la ponctualité. C'est vrai que, souvent, début de culte, la salle est un peu clairsemée et puis ça s'emplit. Vous savez, beaucoup de chrétiens et des gens qui cherchent, qu'on peut recevoir en entretien, qui viennent nous voir, et disent « Ah, j'ai des difficultés sans nom, et puis le Seigneur a promis ça, et puis ça tarde. » Qu'est-ce que vous... Hein? Des fois, ça murmure, d'ailleurs. Parce que le Seigneur, il tarde. Le Seigneur, lui, il est toujours à l'heure. Alors, la moindre des choses, quand on chante des chants comme on a, qu'il a toute autorité, des fois, il y a des gens, même des gens qui sont en retard partout, quand il y a un rendez-vous avec le patron pour un poste, pour un machin, ils arrivent à être à l'heure. Il y en a qui sont encore en retard, mais bon. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas du tout des reproches. Mais ce que ça me dit quand c'est comme ça, je me dis, mais finalement, est-ce qu'on connaît bien celui qu'on dit vouloir honorer? Et je crois que de tout notre cœur, on veut honorer. Cessons d'être négligents. Vraiment, cessons d'être négligents. Un certain nombre vont peut-être savoir de quoi je vais parler ce matin. Est-ce qu'il y en a qui savent? Yves, ouais. Ça m'étonne. Pas parce que je lui ai dit, mais il suit. Oui, c'est vrai que depuis quelques dimanches, quand il m'a, j'ai apporté le message, c'est vrai que j'ai vraiment été touché par ce verset, vous savez, aux Corinthiens, en 1 Corinthiens, à la fin du premier chapitre. Je le redis, parce qu'il y en a qui... Puis on oublie un peu la mémoire. Les Corinthiens... Paul est obligé de leur faire un rappel. Parce que les Corinthiens avaient reçu beaucoup de choses, mais ils étaient prompts à s'enorgueillir de ces choses. Notamment de la révélation accordée. On peut même s'enorgueillir de la révélation accordée. Et Paul souligne, donc je vais reprendre ce verset, et aujourd'hui on va franchir un pas de plus et je terminerai. Enfin, je terminerai. On va faire un pas de plus en tout cas. Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il a été fait. C'est une forme passive. Et cette forme passive, elle souligne la parfaite soumission et obéissance de Jésus-Christ à son Père dans la mission de salut qui lui était confiée. Ça, on a des fois du mal à la forme passive, on est très actif et on aime bien mener les affaires. Jésus-Christ a été fait. Lui, le Fils de Dieu, a été fait. Son Père l'a pris, il l'a saisi, il a plu, nous dit Ésaïe 53, au Père de faire retomber sur lui ce que nous méritions. Voilà comment le Père, on pourrait dire, a traité le Fils. Mais c'était une obéissance de cœur voulu, désiré par le Fils. Il a été fait. C'est pas il a fait. Jésus dit sans cesse, je ne fais rien que je ne vois faire au Père et je ne dis rien que le Père ne m'ordonne. Il a été fait. Il a été fait pour nous. Le plan de salut conçu par Dieu, consistant, après nous avoir réconciliés par le sacrifice de son Fils, à faire de nous des enfants d'adoption, selon, nous dit Éphésiens, le bon plaisir de la volonté du Père, qui est une volonté qui est bonne. On en a chanté la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, vous allez le voir dans ce message, elle dépasse. Dieu est bon, il n'est pas bonbon. Il est d'une bonté qu'on ne peut imaginer et qu'on a besoin de découvrir dans ce plan merveilleux qu'il a conçu pour racheter une humanité dont je vous le dirai plus tout à l'heure, odieuse vis-à-vis de lui. Ça, c'est la bonté. Ce n'est pas un vague sentiment de tendresse passagère qui nous fait du bien. Il a été fait pour nous. Selon le bon plaisir, dans sa souveraineté, Dieu a décidé de sauver ces créatures perdues, et non seulement ça, mais d'en faire des fils et des filles à la suite de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il a été fait, donc, pour nous, quel privilège. D'abord, sagesse. Sagesse, j'en avais parlé, c'est pas la sagesse humaine, c'est une sagesse qui vient d'en haut, des plans qui dépassent notre imagination même. Mais aussi, sagesse, ça veut dire connaissance. C'est-à-dire, Dieu nous a révélé ce qu'il voulait faire. Et j'insisterai, c'est important, une fois qu'on sait, disait une de mes filles, on ne peut plus ne pas savoir. Et nous nous attachons ici à annoncer tout le conseil de Dieu, afin que le plus grand nombre ne puisse plus ne pas savoir et soit amené à prendre une décision. La sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes. C'est une folie pour les hommes qu'un homme qui est le Tout-Puissant s'humilie jusqu'à mourir, à mourir sur une croix. C'est une folie pour l'homme. Vous ne verrez pas ça dans le monde. Vous ne verrez aucune préconisation comme ça dans le monde. En plus, mourir pour racheter et sauver des créatures rebelles qui se sont livrées à un dur maître par leur désobéissance. Devenus esclaves, nous dit la parole, de ce qui a triomphé d'eux. Mais je vais y revenir. Justice et sanctification, j'ai beaucoup insisté, donc je ne vais pas insister ce matin, c'est des fruits que produisent la vérité, lorsque la vérité qui est Jésus-Christ arrive dans une vie. Elle dévoile le péché, l'état de la personne. Jean-Luc, dans sa prière, disait, notre misère, il vient nous chercher dans notre misère, il nous montre, mais il ne nous laisse pas là. Il nous dit, j'ai payé pour toi et je t'aime, tu es justifié, tu peux te présenter maintenant comme juste. Et tu es saint et tu es pur. Voilà une déclaration, voilà un fruit. Pour autant, ceci devient une réalité dans la vie d'une personne, pour autant que nous continuions de laisser la vérité opérer et produire ces bons fruits-là. On peut avoir une illumination à un moment, sur la vérité, il y a une illumination, et puis après je referme la porte. Or, Jésus est la vérité, il est la lumière, et la lumière brille toujours. Il n'y a pas d'interrupteur. Et il n'y a pas d'interruption de la lumière de Christ. Nous venons d'emménager dans un lieu où l'électricité, il y a encore des petites choses un peu à voir. Il y a des lampes, même quand on appuie sur l'interrupteur, par moment, elles s'allument et s'éteignent. Bon, c'est un petit peu aléatoire sur certains. Ne croyez pas, tout le reste va bien. Hein. Jésus-Christ, il est lumière en permanence. Et Jean nous rappelle qu'il n'y a pas une question de lumière, il y a une question de... On se tourne vers la lumière... Bénissons ce petit. On se tourne vers la lumière ou on se détourne de la lumière. Donc la question n'est pas est-ce que la lumière, Seigneur, vient éclairer. Le Seigneur éclaire tout le temps. Le Seigneur éclaire tout le temps. Ma position, c'est je me tourne vers la lumière ou pas vers la lumière. Voilà. Justice et sanctification. Les multiples sacrifices ordonnés par l'ancienne alliance ne peuvent, ni le sang des boucs, ni la cendre des taureaux, ne peuvent, par ces sacrifices répétés, ôter le péché. Ils peuvent l'effacer, on fait un petit bout, puis il va falloir recommencer. Là, par le sacrifice de Jésus, le péché est ôté. Il n'y a aucun sujet de se glorifier là-dedans, nous rappelle Paul. Par contre, une paix et une joie véritable. Pas une joie qui provient d'une agitation ou de recherche de plaisir, machin, etc. Une joie, une paix et une joie. C'est qu'un nouveau royaume vient s'installer parce que nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà un petit rappel de ce que nous avons partagé ces derniers dimanches. Et aujourd'hui, je voudrais que nous allions, parce que peut-être tout ça s'en mêle dans le fond, justice, sanctification, rédemption, on est sauvés, tout va bien. Il a été fait pour nous, rédemption. La rédemption... C'est un rachat d'un esclave ou d'un prisonnier contre une rançon. Alors, rachat, ce n'est pas un achat, c'est un rachat. Ça veut dire que nous avions, l'homme a été dans un temps,
était un propriétaire. Et puis, il a changé de propriétaire, et ce premier propriétaire dit, je rachète. Et oui. Revenons au début. Genèse 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le bénit. Il donne à l'homme une autorité. Il confie à l'homme toute sa création. Et l'homme est dans sa position de créature vis-à-vis de son créateur. Et le créateur lui a confié des missions tout à fait importantes. Bénissez, croissez, multipliez, assujettissez. C'est Dieu qui assigne à l'homme une mission, qui donne à l'homme une mission claire et précise et qui lui donne le pouvoir et l'autorité sur sa création. Ça nous est confirmé dans Genèse 2, verset 15. Je ne lis pas tous les versets, mais vous pourrez relire les références. Il plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et Dieu va donner une délégation. Écoute, comme toute délégation, il y a une limite et puis des conditions d'exercice de la délégation. Et ça, nous pouvons le lire en Genèse 2, les versets 16 et 17. Genèse 2. Je vous encourage, hier en enseignement, on regardait un peu comment lire la Bible, etc. Je vous encourage vraiment à lire toute la Bible, mais les premiers chapitres de la Genèse. Parce que là, nous saisissons, sinon nous parlons du salut, mais pour être sauvé, il faut être perdu, et nous comprenons ce qui s'est passé. Genèse 2, verset, à partir du verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Délégation et limites sont données à l'homme pour gérer, garder, déployer, cultiver, multiplier. Voilà. Cette autorité de l'homme est confirmé en Genèse 2, verset 1, c'est lui à qui va être donné le pouvoir de nommer, de donner un nom à une famille. La volonté de Dieu, c'est que c'est le Père qui donne le nom. C'est le Père qui donne finalement, qui transmet l'identité, aussi bien aux garçons qu'aux filles. Et l'Éternel dit, je t'ai appelé par ton nom, on l'a redit tout à l'heure. Hein? Donc il y a une autorité là qui est donnée à l'homme de nommer, notamment tous les animaux, et il ne trouvera pas de serviteur convenable dans tout ça, et Dieu va lui faire une aide semblable à lui. Donc tout ça pour dire que c'est bien l'homme que Dieu a établi sur sa création pour la gérer, la garder, la diriger. Les instructions sont données par celui à qui tout appartient, bien propriétaire. Une délégation est donnée, tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Voilà la position de départ, à la chute. Qu'est-ce qui se passe à la chute? Parce qu'il y a eu chute. La parole nous déclare qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. On est esclave de ce qui a triomphé de nous. Il y aurait tout un message à faire là-dessus. On est esclave de ce qui a triomphé de nous. Or, la tentation est venue, et cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il nous est dit que il était... Il semblait bon à manger, agréable à la vue et bon pour ouvrir l'intelligence. C'est repris par 1 Jean 2, verset 16, « Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Dieu avait insufflé la vie divine à l'homme par son esprit et l'esprit de l'homme était dirigé par Dieu à la chute. Satan va agir sur les sens pour séduire et amener l'homme à décider lui-même de sa marche. Voilà ce qu'a fait l'ennemi. Il va attaquer par les sens. Son but, c'est de prendre le contrôle de l'être tout entier. Et c'est ce qui s'est passé. On est esclave de ce qui a triomphé de nous. La chute est une décision odieuse de l'homme vis-à-vis de son Créateur qui va le plonger dans les ténèbres et la mort. La chute, ce n'est pas un petit accident comme ça. L'homme avait sa liberté à ce moment-là. C'est une décision. Il a été tenté, mais Jacques nous rappelle que personne dise « c'est Dieu qui me tente » car Dieu ne tente personne et n'est lui-même point tenté par le mal, mais nous sommes amorcés. Amorcés, vous savez ce que c'est qu'une amorce ? C'est petit, mais ça peut déclencher de grands effets. Amorcés par notre propre convoitise. Et la convoitise, ayant conçu, enfante le péché. Et le péché étant consumé, acté, produit de la mort. Je veux insister ce matin, alors peut-être, dire ça plombe, mais il faut qu'on comprenne ça pour arriver à une vraie libération, à une vraie compréhension du christianisme. La chute est une décision odieuse de l'homme vis-à-vis de son Créateur qui va le plonger dans les ténèbres et la mort. Si nous ne saisissons pas cela, nous allons faire de Jésus un bon gourou sympathique. Nous n'allons pas comprendre l'enjeu du salut. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. C'est ce qui s'est passé déjà en Éden. L'homme se détourne ainsi du mandat qui lui est confié par son Créateur, perd la délégation de pouvoir qui lui avait été confiée. Perd la délégation de pouvoir. Ainsi, dès cet instant, par la confiance que le premier Adam a accordée à la suggestion mensongère de Satan et donc sa défiance envers Dieu. Si j'accorde ma confiance, Dieu a-t-il vraiment dit ? Je commence à tirer l'oreille par là. Ça veut dire explicitement que je me méfie de Dieu. Par cette défiance envers Dieu. L'autorité qu'il détenait de son Créateur va être transférée au prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et c'est ce que nous sommes, et c'est ce que nous étions pour ceux qui maintenant ont accepté le salut. Aujourd'hui, ceux qui ont accepté le salut peuvent dire avec Jean, nous savons que nous sommes de Dieu, sans orgueil, sans prétention, et que le monde entier gît sous la puissance du malin. Ne nous trompons pas, je ne suis pas en train de dire, puisque je l'ai même dit dans la prière et je le répète volontiers, le Seigneur Jésus-Christ, lui, c'est à lui qu'a été donnée toute autorité, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pour autant, à ce jour, le monde entier gît, le monde, et il y a l'esprit du monde est entièrement pénétré par la puissance de Satan. Il faut qu'on sache ces choses, la puissance du malin. Je ne vous dis pas que toutes les actions qui sont faites sont mauvaises, je vous dis que ce que conçoit le monde, y compris pour faire la paix, y compris pour faire du social, etc., l'inspiration peut-être bonne, des bonnes œuvres, etc. Mais la racine, ça je sais que ça peut heurter, mais la racine, elle vient de l'ennemi. Parce que les choses ne sont pas faites pour rendre gloire à Dieu, mais pour rendre gloire à l'homme. Est-ce que vous me suivez ? C'est important, la motivation, la profondeur des cœurs, ce qui anime les choses. Et ça, c'est important que nous sachions ça, parce que ça va nous aider dans notre marche chrétienne. Quand le Seigneur fait ce travail-là dans nos cœurs. Sur cette histoire de changement de propriétaire, lorsque Jésus, dans Luc 4 et versets 5 à 8, on va aller les lire. Luc 4, versets 5 à 8. Vous savez, les tentations de Jésus au désert. Au verset 5, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Est-ce que Jésus a répondu « Non, 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 tous les royaumes de la terre t'appartiennent pas, elle ne t'a pas été donnée, ce n'est pas vrai. » Non, il n'a pas contesté ça. Jésus lui répondit, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » L'enjeu, effectivement, c'est l'adoration. Mais je prenais ce passage pour souligner que, oui, Satan, et c'est l'homme qui a cédé, si j'ose dire, à Satan l'autorité qu'il avait. Dieu avait confié à l'homme la gestion de sa création. L'homme, par sa désobéissance, a cédé cela. Dieu n'est pas lié par cette trahison. Jésus ne conteste pas cela, ce fait-là, mais rappelle à qui est due l'adoration. Donc, par ces quelques mots, je voulais nous amener, que nous soyons bien d'accord sur la nécessité d'être rachetés. Parce que nous appartenions, le premier Adam avait reçu de Dieu tout ce qu'il fallait, il appartenait à son Créateur, et par sa révolte, il y a eu bien une séparation. Donc la nécessité d'être racheté, la condition où l'homme s'est placé par sa folie et sa révolte, le met dans l'incapacité, vous savez, de revenir par ses propres moyens. Ceux qui font de l'escalade, il y a une notion dans l'escalade de l'engagement. C'est quoi la notion de l'engagement? C'est qu'il y a des passages dans la montagne où il faut bien réfléchir. Il ne faut pas préjuger de ses forces. Parce qu'il y a des passages où on peut passer dans un sens, mais selon le niveau de difficulté, on n'arrive pas forcément à revenir. C'est pour ça qu'il faut un bon guide. Vous me suivez? Il y a peut-être qui en fait. Hein, c'est vraiment une notion importante dans l'escalade. Il peut y avoir un rocher qu'on passe. Par contre, le retour, s'il y a un surplomb et qu'on ne sait pas gérer ça, eh ben on ne passe pas. Donc le retour est impossible. Voilà la situation dans laquelle s'est mis l'homme. Il a cru, c'était bon à voir, etc. Ouais, ouais, ça va le faire, comme mon Créateur. Retour impossible. Retour impossible. Pourquoi retour impossible? Parce que par cette rupture, l'homme a été plongé, ça a été dit, dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, on ne voit pas clair, car il ne sait où il va, il est aveugle, et surtout dans les ténèbres. Un aveugle, ça ne voit déjà pas clair, dans les ténèbres, c'est pas terrible. Vous me direz, ça ne le gêne pas plus. Nous étions morts dans nos péchés. C'est-à-dire qu'il y a même une inconscience. On est coupé des choses de Dieu. Nous le savons, Jésus-Christ est le prix que Dieu a payé pour notre rachat, notre délivrance. Quand je dis rançon, je voudrais que ce soit clair, parce que certains disent, ah oui, il y a un combat entre Dieu et Satan, et Satan, on doit payer la rançon à Satan. Il ne va pas payer la rançon à Satan. Par amour. J'allais dire, il a payé la rançon à lui-même pour que nous puissions revenir dans la communion avec le Père. Hein? Attention à ça, hein, parce que des fois, je vois qu'il présente un espèce de combat entre Dieu et Satan. Il est réglé, nous le savons, à la croix. Nous aurons peut-être des combats, hein? Puis faisons bien attention de ne pas aller nous mêler de choses qui ne nous regardent pas, hein, non plus. Nous, notre refuge, il est en Christ, et c'est lui qui combat pour nous. Attention. Job 33 nous confirme ces choses sur la rançon. On va les lire, Job 33. Job 33. Cité plusieurs fois, j'aime bien ce passage. Une belle description. Et qui nous situe bien. Job 33. On va lire à partir du verset 19, peut-être ça peut parler à certains, par la douleur aussi. Job 33, verset 19. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend des goûts le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mises à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Alors sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entra pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. » Voilà tout ce que Dieu fait deux fois, trois fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Amen. J'ai trouvé une rançon, c'est la bascule de ce texte. L'homme est dans les tourments, dans les ténèbres, il ne comprend pas ce qui arrive, il s'approche de la fosse, les messagers de la mort sont prêts à le prendre. Mais s'il se trouve un ange intercesseur, dont Hébreux nous disent, les gens ne sont-ils pas les serviteurs au service de Dieu pour le salut de ceux que Dieu appelle, Hébreux 1. J'ai trouvé une rançon. Texte prophétique. C'est Jésus-Christ la rançon. Et vous voyez la bascule de ce texte. Cet homme était auprès de la fosse, près de la mort. Les messagers de la mort allaient le cueillir. J'ai trouvé une rançon. Alors cet homme trouve une fraîcheur plus que dans ses premiers jours. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Jésus-Christ est descendu pour nous dans les régions inférieures de la terre jusqu'au séjour des morts. Il est descendu plus bas que la fosse. Il a lié l'homme fort, il a vaincu les puissances, les autorités qui dominent sur ce monde et à quelles nous étions livrés. Ça, c'est le rachat. Il est descendu, celui qui a été monté aux cieux, c'est aussi celui qui est descendu dans les profondeurs de la terre. C'est lui qui a mené ce combat. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Le salut, la rédemption comporte donc deux aspects. Pierre nous rappelle, nous avons été rachetés à grand prix, non par de l'argent et l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Ça, c'est un fait. On va lire dans 1 Pierre 1, versets 18 à 21. 1 Pierre 1. Versets 18 à 21. Sachant, 1 Pierre 1, versets 18 à 21, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, il a été fait pour nous, qui par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. La chose est faite, la chose est faite, mais c'est par la repentance et la foi que nous saisissons de manière personnelle ce qui est fait, ce qui est accompli. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. J'aurais souligné à ce point. Je voudrais insister sur l'intervention de Dieu, ce qui était dit dans les prières. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvions pas payer le prix. C'est repris dans plein de choses, le psaume 49, je l'ai dit à plusieurs occasions. Et Dieu a fait sa part. Mais c'est vrai qu'il y a une part que nous avons à faire. Je vais prendre la comparaison avec un prisonnier qui est libéré. Il a son acte de libération et il va sortir. Jean-François, qui est aumônier dans les prisons, nous dit combien, même celui qui va sortir, il a quelque part peur de sortir. Parce qu'il a ses habitudes, Il a des repères. Donc il y a la peur de sortir. Je dirais pour notre salut, c'est ça. On dit, le prix a été payé, la rançon. Dieu nous a racheté, c'est fait, l'acte est fait. Encore faut-il le saisir pour soi. Pour soi. Et ça, le saisir pour soi, ça passe par reconnaître qu'il n'est pas mort pour rien, qu'il y avait des choses à régler. Mais aussi avoir confiance que c'est réglé. Donc mon prisonnier, il a peur de sortir. Et une fois qu'il est sorti, il faut qu'il accepte, et l'environnement ne va pas lui faciliter, parce que quand le monde rencontre quelqu'un qui dit « Tu fais quoi toi dans la vie ?»« Je sors de prison » et paf, une condamnation qui revient. Alors que, au sens de la justice humaine, la dette a été réglée. Pourtant, eh bien je crois que c'est, dans la vie chrétienne, il y a bien ce problème-là aussi. La dette a été réglée par Jésus-Christ. Les portes d'airain, les verrous de fer ont été brisés. La porte est ouverte. Encore faut-il sortir. Encore faut-il sortir. Et il faut savoir que les accusations ne manqueront pas. De l'ennemi, agissant à travers l'esprit du monde, mais agissant aussi à travers des religieux, à travers des pharisiens qui diront « Quand même, t'as été en prison, quand même !» Je ne peux pas vous dire que ça ne se passera pas. Ça se passera. Mais là, ce n'est pas par une justice humaine que l'affaire a été réglée. C'est le Fils de Dieu qui a racheté. Si vous voulez, je voudrais vous montrer autant le caractère odieux de la révolte de l'homme, son créateur, et là, on va saisir la bonté de Dieu. Parce que devant cette attitude odieuse, Dieu, oui, est bon, parce qu'il est parfaitement en connaissance de ce qui a amené l'homme à tout ça, quand ce qu'il y a eu, mais il décide, dans sa souveraineté, de payer le prix. Alors, puisque c'est ainsi, quand on s'en saisit, ne nous laissons pas de nouveau agresser. Nous avons, oui, été justifiés. De l'injustifiable, nous avons été justifiés. Alors, sortons, les verrous de fer ont été brisés. Alors, sortons, j'ai été justifié. Je suis saint. L'autre dimension, et ça me fera la transition avec la dernière partie, ce prisonnier qui est libéré, il doit effectivement ne pas tenir compte des colibés, des accusations qui continuent. Mais lui, il a une part. Il devra faire attention. Il doit veiller dans sa nouvelle vie, particulièrement à ne pas retomber dans les ornières qu'il avait connues. C'est la vérité. Et là, c'est le dernier point. Travailler à notre salut en attendant la rédemption de notre corps. Et vous allez me dire, j'y comprends plus rien. Tu viens de dire que la rédemption est faite, elle est acquise, et maintenant, il faut attendre encore. Oui. Parce que, de même que la mort, elle est venue, d'abord dans l'esprit, à l'instant de la désobéissance, la relation avec Dieu a été coupée. Et la relation avec Dieu, c'est le domaine de l'esprit, c'est le domaine spirituel. Puis, cette mort dans la relation, hein, quand une relation est coupée, c'est une mort qui agit. Cette mort, elle a pénétré l'âme avec les pensées et les sentiments. Tony nous rappelait dimanche dernier le problème des pensées. Et là vient venir la jalousie, l'offrande religieuse, se faire un nom. Hein, je vous résume tout ce qui s'est passé dans la Genèse et qui se passe aujourd'hui. Tout ce problème. Donc, de même que la mort, elle a pénétré, elle est venue par l'esprit de l'homme, l'homme est esprit âme et corps, elle s'est répandue dans l'âme avec toutes ses jalousies, elle a produit, elle a atteint le corps. Quand on regarde dans la Bible, l'âge de nos patriarches va diminuer progressivement. La mort, ce n'est pas simplement un truc instantané, c'est quelque chose qui se répand. Et cette mort, elle a entraîné un processus régressif parce qu'il y a une accumulation des effets du péché à travers les âges. Alors ça, c'est une notion extrêmement importante. Les traditions disent « Ah, oh, ça a toujours été comme ça. La débauche, bon, ça a toujours été comme ça. Regardez les empires, etc. » Il y a une chose qui est différente. Le péché s'accumule. Et les effets du péché s'accumulent. Nous sommes dans une génération, vous allez dire, il fait une obsession avec ça. Oui, parce qu'il y a une diffusion de masse du péché. Il y a une diffusion de masse du péché. Et c'est des vies individuelles qui sont toujours abîmées. Et le drame d'une vie individuelle souillée par le péché, c'est toujours le drame d'une vie individuelle souillée par le péché. Et les tourments, et les morts, et les suicides, et les meurtres, et les paroles, et les dépressions. Et ça, c'est un phénomène de masse. Et c'est ça qui a changé. Le prince de la puissance de l'air, il contrôle aujourd'hui beaucoup de choses. Donc il faut que nous sachions ces choses. Parce que la Bible le dit, je ne vous donne pas toutes les références, mais il y a une accumulation de l'effet du péché. Donc de même que la mort est venue, esprit, âme et corps, de même la vie en Jésus-Christ, elle commence par une illumination de l'esprit. Elle vient réveiller l'homme et le rebranche avec son Dieu. Et alléluia, Paul va prier pour ça. Je prie que vous soyez illuminés, que les yeux de votre cœur soient illuminés. Et c'est merveilleux. Et c'est ce que nous aspirons. Et nous prions, nous trouvons avec les anciens. Nous supplions, Seigneur, qu'il y ait des vraies conversions, des illuminations, que ça bouillonne. Alléluia. Ça, c'est le début. Commence par une illumination de l'esprit, touché par l'Esprit de Dieu. Et de même que la mort est venue, esprit à mes corps, de même la vie de Jésus-Christ va se répandre. Et ça, il faut y veiller. Elle va transformer en les renouvelant les pensées, les sentiments, les émotions, les critères de choix dans nos vies. C'est pas normal si quelqu'un dit « j'appartiens à Jésus-Christ » qu'il continue de diriger sa vie avec les mêmes critères qu'il faisait avant. Les décisions, comment nous prenons nos décisions? Et cette vie que nous avons reçue de Dieu, elle impacte sur notre corps, quoi qu'en partie. Et c'est à ça que je veux venir. Notre corps demeure marqué par la chute, et cela jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et ça, c'est important, parce que si nous ne comprenons pas ça, Romains 8, versets 23-24 nous dit « Nous avons reçu les arts de l'Esprit et nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Nous sommes entièrement, nous sommes rachetés, l'acte a été scellé et il y a un processus qui, la rédemption complète, ce sera quand Jésus-Christ reviendra, alors ceux qui seront vivants, qui seront emmenés avec le Seigneur, leur corps sera renouvelé en un instant, en un clin d'œil, et nous serons revêtus de l'immortalité, mais pour le corps, ce sera à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, c'est-à-dire que d'ici là, nous avons des combats et des luttes, et il faut savoir contre qui nous nous battons, parce que ça durera jusqu'au bout. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ça ne veut pas dire qu'on a du doute si on est sauvé ou pas, c'est pas ça. C'est en espérance, mais l'accomplissement. Nous avons l'assurance que ce sera complètement accompli quand il reviendra. C'est une assurance, parce que nous croyons que Jésus revient et que la puissance de la vie de résurrection va être complète quand il va revenir. Hein? Une espérance, ce n'est pas un vague espoir. C'est une encre solide dans notre âme. Nous qui avons saisi le refuge, l'espérance qui nous était offerte, qui a été notre refuge. Mais comprenons bien que pour l'instant, nous vivons tous ici dans un corps mortel qui mourra, à moins que le Seigneur Jésus revienne avant que nous mourions. Mais notre corps, aujourd'hui, est marqué par la corruption, la chute d'origine, même pour les sauver et les racheter. Et ça, c'est important, parce que sinon, nous gourons dans notre marche et nous sommes surpris de choses qui nous arrive, on se dit c'est pas possible. Alors pourquoi c'est important? Sagesse et connaissance pour devenir des hommes faits. Puisque notre corps est encore marqué par la chute, il y a encore la puissance du péché, ne soyons pas surpris de ce que nous découvrons parfois au fond de nos cœurs. Des horreurs encore. Et là, je nous encourageais. Parce que je crois que c'est un problème dans le développement et la croissance de la vie chrétienne. C'est qu'on s'est converti, on a été purifié de nos péchés, on a une profonde, une sincère repentance pour ceux qui ont vécu cela. On a confessé des péchés, tout ça, bon. Et puis on voit revenir des trucs, mais on se dit, mais ça va pas. Et là, il y a deux attitudes où on prend les vieux réflexes. Ça amène de la honte, et on n'en parle pas, et on va faire comme Adam, on va se recouvrir avec la feuille du figuier. Mais ça sert à rien. Il faut se couvrir avec le sang de l'agneau. Ces choses qu'on découvre peuvent nous conduire à un désespoir et à une culpabilité qui nous ramènerait en Égypte. Donc il y a les deux voies, quoi. Les gens qui vont être écrasés par la culpabilité, ça c'est une voie alors qui est terrible, quoi. Ou une autre voie qui est un refus de reconnaître, dire non, je suis sauvé, donc maintenant machin, c'est fait, alors on déclare, on proclame, etc. Mais le machin, il est quand même là. Et ça amène vers l'hypocrisie. Une hypocrisie orgueilleuse. Hein, où on se cache effectivement, comme je disais, avec la feuille de figuier, plutôt que de saisir le refuge qui nous est proposé, à savoir toute l'œuvre de Christ qui a été faite pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et vraiment, je voudrais que, si vous pouviez retenir cela, de ce rachat, il est fait. Nous avions vraiment besoin d'être rachetés parce que nous appartenions à un autre. La rédemption, elle est complète, le programme se déroulera complètement, mais pour ce qui est de notre corps, il faut attendre un petit peu, et en attendant, vivre avec fermeté, mais ne pas laisser. Donc ne soyez pas surpris, ne soyons pas surpris de ce qui peut se présenter et qui ne nous réjouit pas. Reconnaissons que ça existe. Disant à Dieu, je vois cette chose. Oh, c'est pas le péché commis, gros, mais les pensées. Les pensées peuvent amener à souiller. Je ne veux pas vous faire la liste. Mais vraiment que chacun se dise quand ça arrive. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas accepté Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas de bonnes choses pour vous. Ça veut dire que c'est normal, il y a encore la chair qui est là. Et on l'aura jusqu'au bout. Je termine en disant la semaine, pas la semaine qui vient, mais la semaine suivante, nous vivrons une semaine de jeûne et de prière. Le thème sera le perfectionnement des saints en vue de l'édification du corps de Christ. Quand nous souhaitons que l'Église croisse en nombre, nous manifestons là un vœu qui est dans le cœur de toute personne ayant rencontré Jésus-Christ. Quand on a rencontré Jésus-Christ, on a envie de le dire aux autres. Arrête ! Arrête ! Viens ! Il n'y a qu'une route. En même temps, il est important que dans les temps que nous vivons, les personnes qui vont venir ici, qui viennent ici, trouvent ici des hommes et des femmes faites en Jésus-Christ. Pas des hypocrites comme ça a été rappelé, qui... Celui-là n'a pas grand-chose à faire. Mais que quand des personnes vont venir ici, elles voient des vies réellement transformées, des vies rééquilibrées. Des vies rééquilibrées, ça veut dire que c'est des vies qui n'étaient pas équilibrées. C'est comme le rachat, ça. Mais maintenant, des vies rééquilibrées, vraies, paisibles et joyeuses. Des vies prospères, des âmes prospères. C'est ça qui touchera plus. L'évangélisation est importante, il faut témoigner, dire aux gens, venez et voyez. Venez et voyez, mais que vont-ils voir ? Venez et voyez. C'est ça qu'ils ont dit, hein. L'évangélisation, c'est ça. Venez et voyez. Mais qu'est-ce qu'on va avoir à leur montrer? Cela est possible par Jésus-Christ qui a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nous prions. Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous désirons, Seigneur, vraiment connaître, non pas, Seigneur, avec notre tête, mais que tu révèles à nos cœurs. Et je te prie, Seigneur, que tu ouvres notre esprit, que nous comprenions les Écritures, que nous comprenions ce que nous lisons, que nous comprenions, Seigneur, l'immensité de l'œuvre. Parce que, Seigneur, si nous saisissons cela, Seigneur, alors oui, nous pourrons marcher dans une vraie liberté. La liberté glorieuse des enfants de Dieu, en toi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous glorifier nous-mêmes, mais en toi, sommes libres, vivants, oui, fort, Seigneur. Nous avons chanté que ce soit puissant de ta puissance, Seigneur. Nous n'avons aucune puissance en nous. Seigneur, nous reconnaissons. Merci de nous enseigner, de nous rappeler, Seigneur. C'est toi qui déroules ton plan, Seigneur. Et à ce jour, nous vivons dans un corps de chair. Mais, Seigneur, c'est ton esprit qui nous guide. Je te prie, Père, que par ton Saint-Esprit qui nous révèle ta parole, qui éclaire nos vies, Seigneur, nous voulons accepter tout le miroir, tout ce qui nous est reflété, non pas pour nous détourner, Seigneur, mais pour dire, Seigneur, ça, nous savons que ce n'est pas de toi, et nous te le remettons. Tu as réglé le problème. Seigneur, nous marchons jusqu'au bout dans la chair, mais nous soupirons en attendant ton retour. Et d'ici là, Seigneur, nous voulons vivre et être des témoins dans ce monde, dégager le bon parfum, Seigneur. Avoir une vie simple, Seigneur. Simple. On t'a appris, ô homme, ce qui est bon. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice que tu as reçue, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen.